Ils ont reculé devant un certain nombre d'audaces, disent-ils. Alors, pas toujours, hein, parce que dans certains cas, on a bien arraché les grilles de communion, des choses comme ça.
Ah, ça, c'est vrai, c'est pas bien.
Ça, c'est vrai.
À Saint-Nicolas, ils avaient installé un espèce de podium un peu plus relevé. Ils avaient mis tous les objets de culte sous.
Ah bon? Ah
oui,
bon,
ils n'étaient pas jetés.
Non, ce n'était pas jeté, c'était dessous. Quand ils l'ont enlevé, ils ont découvert tout le trésor.
Et puis alors,
à Saint-Nicolas.
L'autre aspect de l'iconoclasme moderne, c'était non seulement on fait disparaître les objets, ou alors on fait des objets qui ne représentent rien, vous voyez, de style art contemporain.
Bien sûr. Ça me fait penser à une croix d'un certain type, puis récemment.
Oui, ou alors.
Regardez au synode l'espèce de croix qu'avait le pape François.
Ah oui, c'était vraiment.
C'était satanique.
Ah non, c'était un bâton sorcier.
Et en plus, comme ils ont vendu la seule boussole qui existait, on ne sait plus où est l'Est.
Oui.
Mais les carmélites avaient gardé des objets ou pas? Parce que les carmélites de Compiègne sont mortes en se passant un petit Jésus.
Oui, donc une petite statuette.
Une petite statuette.
Petit Jésus, vierge. Oui, oui. Donc ils avaient quand même.
Vierge.
Ah oui, bien sûr,
elles
bien sûr.
Quand même quelques statues.
Oui, elles étaient. C'était l'iconoclasme, enfin disons, la sobriété catholique était quand même compatible avec. Vous voyez, par exemple, les cellules de Carme ou de Carmélite, il y avait une croix, mais pas le Christ dessus.
L'enfant
Jésus de Prague.
L'enfant de Prague,
mais pas tellement plus, c'était dans
Prague. Enfin, un moment d'ailleurs.
Oui, dans les affaires de Bernanos. Oui.
Non, c'est dans Gertrude von Effort.
Ah oui.
De cet enfant de Prague, donc ils avaient quand même un petit Jésus.
Bah, vous savez, à chaque fois que vous faites le ménage, la poussière revient. Hein. Donc, vous pouvez être certain qu'à un moment, vous avez un Saint Bernard qui va vous faire des grandes théories sur la sobriété en matière liturgique. Et puis, subrepticement, le troisième ou quatrième successeur de l'abbaye va faire orner un autel, et puis placer une statue ou des choses de ce genre. Donc, en fait, à chaque fois, les choses reviennent. Alors, parfois avec mauvais goût. Hein, c'est certain que certaines statues de plâtre un peu sulpiciennes n'étaient pas extraordinaires non plus. Donc, voilà. Et puis.
Mais la statue de la Vierge, avec le visage de la Vierge extrêmement vivant, a quand même échappé à l'iconoclasme. Enfin.
Laquelle?
Bah, tout dans les églises, il y a des statues de extraordinaires.
Oui.
En particulier.
Bah, les Ambrois, les Huguenots n'ont pas eu le temps de casser les choses. Les endroits où les révolutionnaires n'ont pas fait non plus. Et les endroits où ça n'a pas été non plus fait après le concile. Donc, oui. Alors, après le concile, quand même, ils n'auraient pas été cassés des statues médiévales. Mais par contre, les mettre au grenier, oui, c'est pas impossible. Et ça s'est fait, Et alors donc, cette espèce d'iconoclasme soft qui consiste justement à pas vraiment représenter, vous voyez. Alors, toujours avec l'idée que la divinité est irreprésentable. Donc, du coup, restons abstraits. Oui, mais justement, le Christ s'est incarné. Il ne s'est pas incarné dans une humanité abstraite, dans une sorte de... il avait un visage, il avait des yeux, enfin d'une certaine couleur probablement, enfin, etc.
D'après Valtorta, il était blond aux yeux bleus.
Ah,
d'après
Valtorta.
Maria Valtorta, vous savez, qui a fait des tonnes de livres sur l'évangile. Mais en tout cas, il était dans une humanité bien particulière. Donc, vous voyez, donc là aussi, il y a une sorte de dérive iconoclaste avec. Des croix qui ressemblent à rien, des autels qui sont des pierres pataillées, ça c'est l'Ancien Testament, mais on n'est plus dans l'Ancien Testament. Des images qui, on se demande qui est qui. Quand on est obligé de mettre une légende pour essayer de comprendre, c'est qu'il y a un problème. Enfin,
oui.
Parce que justement, le rôle de l'image, c'est d'être un symbole qui nous permet de reconnaître. C'est pour ça qu'il y avait tous les codes médiévaux, orientaux et même baroques qui permettaient de dire, bah, tiens, telle personne, c'est tel saint ou...
Oui, mais il y a 100 ans, n'importe quel garçon, fille cultivée, comprenait au Louvre la, le sens des...
Ah ben, oui.
Et aujourd'hui, je pense que si on met des lycéens au Louvre, il n'y a pas un sur 100.
Ah ben, même les étudiants d'histoire de l'art.
Oui, non, mais donc, il y a quand même...
tout leur expliquer.
Ils ne comprennent plus rien.
Non, mais
faut tout leur
même là, des choses aussi classiques que la scène sont passées à la trappe de la...
Oui, ils comprennent. Alors, bien sûr, quand on vous présente quasiment une omelette, vous avez du mal à imaginer que c'est Sainte Agathe, mais... vous savez, elle s'est fait couper.
Oui, d'accord.
Et alors, elle est présente toujours sur un plat.
Oui, oui.
Et alors, ça ressemble un peu, je sais pas, à des œufs sur le plat. Quoi. Et puis, les yeux de Sainte-Lucie, ou vous savez, des billes, les yeux de Sainte-Lucie, ou des trucs comme ça. Bon, ça, nous, au premier coup d'œil, on sait qui. Regarde, vous n'avez pas pu voir de très près les ornements de dimanche dernier, du dimanche d'avant, qu'on emprunte à Saint François Xavier. En fait, ce sont des vieilles broderies, je pense, du XVIe siècle. Et on peut reconnaître au moins la moitié des saints grâce aux attributs qu'il porte, notamment Sainte-Cécile, qui est représentée sur une des dalmatiques, parce qu'elle porte un petit organon. Vous savez, un petit orgue à tuyaux portatif, comme au Moyen-Âge. Et ça, ça permet d'identifier le saint. Alors voilà, donc pour notre question de l'iconoclasme. Alors, on va passer à la patristique tardive. Donc, c'est la section 2, ce paragraphe, chapitre 3. Alors, comme vous le voyez, les controverses dogmatiques restent vives en Orient, où réside l'empereur et où se déroulent les conciles, alors que l'Occident, lui, va être confronté dès le 5e siècle aux invasions, et donc va se retrouver dans une toute autre situation. On peut dire que l'Antiquité perdure à l'Est, alors que le Moyen-Âge déjà fait son apparition à l'Ouest. Et les deux mondes vont être de plus en plus distants, enfin culturellement. Et culturellement et même politiquement. La présence byzantine en Italie va finir par disparaître. Alors, premier paragraphe, l'Occident latin. Alors j'ai mis Grantal et père du 5e et 6e siècle. Alors on peut dire que au 5e et 6e siècle, on a deux moines et deux humanistes qui seront les derniers feux de la patristique occidentale. Alors les deux moines, c'est Salvien de Marseille qui a vécu au 5e siècle, de 400 à 470, à peu près, c'est pas très bien. Il est né à Trèves, donc vous vous souvenez, Trèves, c'est une des capitales impériales à l'ouest, sur le Limès. Et marié, il dessine avec son épouse, après leur conversion, de vivre la continence, un peu comme les pères de l'Église du siècle précédent en Orient, hein, les Grégoire, etc. Grégoire de Nice, par exemple. Hein. Et il va rejoindre les moines de Lérins en 426, donc il n'a pas dû rester marié longtemps, et il devient prêtre en 429. Alors, son œuvre est plus ou moins perdue, sauf quelques ouvrages qui nous sont restés. Un traité qui s'appelle le De Gubernatione, du gouvernement, où il se pose la question, pourquoi le Dieu des chrétiens ne protège pas l'Empire chrétien contre les barbares païens, une question qui était une question voilà, d'actualité. Voilà, une question d'actualité. Alors, donc, Salvien est interrogé par des chrétiens décontenancés. Hein. Il va essayer de donner une réponse, alors que Augustin, lui, était plutôt interrogé à la même époque par des païens en colère. Hein. Les vieilles familles païennes qui étaient furieuses que Rome soit tombée parce que l'Empire était devenu chrétien et n'avait pas persévéré dans le culte des anciens, le Mos Maiorum. Alors pour Salvien, qui va essayer de répondre à cette question, la cause des malheurs est à chercher dans le comportement fautif des chrétiens eux-mêmes. En fait, c'est une punition, un châtiment divin. En fait, c'est exactement la position de l'Ancien Testament. À chaque fois que Israël est humilié, c'est parce que le peuple a été infidèle. On finira par dire que le peuple a été infidèle parce qu'il y a eu une catastrophe. Dès qu'il y a une catastrophe, immédiatement commence à se dire on a péché. Et alors du coup, comme Daniel que vous voyez dans les livres tardifs de l'Ancien Testament, immédiatement on commence à chercher quel péché on a bien dû faire pour avoir eu une telle catastrophe. Ça, globalement, beaucoup de Juifs ont raisonné comme ça au milieu du XXe siècle, hein, en se disant, on est puni pour notre infidélité. Voilà. Alors donc ça, c'est l'interprétation de Salvien inspirée l'Ancien Testament. Mais il montre qu'effectivement, pour leur honte, les barbares, enfin, pour la honte des chrétiens, les barbares ont souvent une vie plus digne, que plus naturelle, on pourrait dire, que les chrétiens. Les chrétiens avachis dans les plaisirs, dans un certain nombre de choses de l'Empire, alors que les splendides barbares germaniques sont fidèles à leur épouse, courageux, endurants, etc., etc. Donc, alors le fond de la réponse de Salvien, c'est dire Dieu ne s'est pas désintéressé du monde, il ne nous abandonne pas, mais il montre sa sollicitude en permettant des troubles afin d'amener les chrétiens à la conversion et du coup aussi à la conversion de ceux qui viennent les envahir. Alors, c'est un peu ce qui se passera d'ailleurs, hein. Voilà. Alors, dans cet ouvrage, les deux premiers livres sont justement consacrés à la Providence dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et puis, le reste, eh bien, ce sont les vices des chrétiens. Livres 3 à 8. Alors, il y a les manquements à la charité fraternelle. Souvenez-vous, les terribles aussi homélie de Chrysostome sur la richesse des uns et la pauvreté des autres, l'avarice, le meurtre, la luxure, ça remplit le livre 4, le brigandage dû aux exactions du fisc.
Je ne sais pas pourquoi on rit.
Enfin, les gilets jaunes, quoi. C'était les bagauds à l'époque, hein. Vous savez, ces gens qui avaient été paupérisés par le fisc et qui se promenaient en grande bande dans une Gaule qui n'était plus vraiment policée par l'administration impériale et qui brûlaient dévastaient tout pour subsister, hein, en somme. Donc, le brigandage dû aux exactions du fisc. Ça reste toujours d'actualité, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, alors, les spectacles, c'est le pantosane des auteurs chrétiens, hein, les spectacles immoraux, les superstitions aussi, parce que gratter le chrétien, vous retrouvez assez vite le païen dessous. Et ah, oui. Au livre 7, la débauche et l'orgueil.
C'est bien.
Et au livre 8, le culte des idoles et les mauvais traitements infligés aux serviteurs de Dieu. Hein, souvent, les prêtres sont des esclaves à cette époque. Ils ne sont pas affranchis. Alors, voilà. Donc, donc, ce saint Salvien de Marseille nous a laissé quelques écrits de circonstances. Et puis, l'autre moine qui nous intéresse, c'est Benoît de Nurcie, de Norcia.
Hein. Oui. Il est plus connu.
Oui, que Salvien de Marseille. Oui. Alors, il est plus connu, mais on est, pour les dates, on n'est pas plus avancé, parce qu'il est né entre 480 et 490, hein, selon les auteurs. Il est mort en 547, d'autres disent entre 555 et 560. Donc, on n'est pas très assuré de ces dates. Donc, Benoît est issu d'une famille aisée de Lombrie, de la ville de Norcia, qui hélas a été qui a fait le devant de l'actualité il y a quelques années là, avec les tremblements de terre hein, qui ont dévasté la ville. Et il étudie à Rome, donc vous voyez, au début du VIe siècle. Il est connu, vous voyez, une sorte de parallélisme, de même que Athanase d'Alexandrie a fait connaître Antoine du désert, eh bien, Grégoire le Grand, évêque aussi, va faire connaître Benoît de Nurcie. Autrement dit, Grégoire va faire pour l'Occident ce que Athanase avait fait pour l'Orient, c'est-à-dire mettre sous le projecteur la vie d'un moine illustre. Alors, donc tout ce qu'on a sur Benoît nous vient de Grégoire. Hein. Il est dégoûté par l'ambiance romaine, l'ambiance de l'Empire finissant, hein. C'est vraiment la fin de l'Empire.
Hein. Il avait déjà tombé.
Oui, il avait déjà été pris en 410. Et donc l'Empire était tombé. De temps en temps, il y avait des résurgences. C'était l'époque où les Byzantins aussi se disputaient les ruines de l'Occident. Donc, dégoûté par l'ambiance romaine, il se retire bien vite. Et au bout de quelques temps, il va se faire ermite, pas très loin de Rome, à Subiaco. Dans une grotte. Des histoires qui nous rappellent un peu Élie avec le corbeau qui vient de mourir. Alors, il va y gagner. On dit ça, mais vous savez, les oiseaux sont très apprivoisables. Hein. Je me souviens d'un détenu qui m'avait expliqué qu'il avait fini par apprivoiser une mouette qui venait lui apporter des trucs. Des petits coquillages à la grille de sa prison. C'est impressionnant, hein. Pidouze
et son moineau.
Ah oui, oui, mais Pidouze et son moineau. Churchill, il avait un canari, je crois. Canari. Churchill aussi, je crois bien. Le canari de Pidouze, oui. Je crois bien que il a disparu en même temps que la sœur Pascalina Lennert. Là, je crois qu'il y a eu un grand coup de balai après la mort de Pidouze. Alors, en tout cas, voilà. Donc, il nous est présenté un peu par Grégoire comme une sorte de patriarche de l'Ancien Testament. En tout cas, ça pose son homme. Hein. Et comparé à Élie ou à des gens comme ça. Et puis ensuite, il va gagner, comme tous les gens qui se retirent dans le désert et la solitude, ça va attirer des gens, il va gagner une certaine renommée, et notamment d'une communauté voisine qui va demander un chef, un abbé, quoi. Mais ça va être un échec, car les moines voulait bien se réformer, mais pas trop. Et donc, le problème des saints, c'est qu'ils sont toujours un peu jusqu'au boutiste. Et donc, ils vont essayer de l'empoisonner. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Hein.
Oui, bah oui.
Quand Saint-Norbert, après s'être converti, vous savez, Norbert, il était juste sous-diacre, quelque chose comme ça, même pas, peut-être encore ordre mineur, grande famille aristocratique rhénane, qui était un familier de l'empereur, du jeune empereur, donc ils étaient jeunes tous les deux. Et puis, un peu comme tout le monde, si j'ose dire, à cause d'un orage dans la forêt, alors qu'il était en train de chasser je ne sais pas quoi, eh bien, il est tellement impressionné qu'il se convertit, un peu comme saint Eustache, comme saint Hubert, et comme Martin.
Oui, Martin Luther.
Martin Luther. Mmh. Et alors, donc, le Norbert reçoit ses ordres majeurs, et évidemment, comme il est riche, il se retrouve dans une abbaye de chanoines, et là, il veut la réformer. Bah, du coup, il échappe à un attentat, et puis il repart tout seul, fonder son ordre dans un pré à côté de l'An. Et plus tard, quand il sera archevêque de Magdebourg, archevêque missionnaire, enfin archevêché missionnaire pour convertir les Slaves, et que, jouissant de l'amitié toujours de l'empereur, parce qu'il est même chancelier de l'Empire, eh bien, il veut réformer son clergé. Et là aussi, il échappe à un attentat. Ce sont les gardes de l'empereur qui protègent l'archevêque, hein, de son clergé. Et puis, mais plus récemment encore, Charles Borromée, à l'époque du Concile de Trente, qui réforme son clergé, il échappe à un coup d'arquebuse tiré en plein milieu de la cathédrale de Milan par des chanoines qui ne voulaient pas se réformer.
Donc,
qui avait fomenté un complot pour tuer l'archevêque. Et alors, la balle d'arquebuse est passée à côté de... Alors, s'il avait tourné la tête avec son grand nez, il l'aurait peut-être eu, mais donc, il a échappé à la mort.